Bonsoir.
Merci et bonsoir Anne Fauquemberg. Ce soir, l'économie collaborative supporte-t-elle la régulation ? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un ou plusieurs logements que vous louez à partir d'une plateforme de partage de type Airbnb. Et vous n'êtes pas censé ignorer que les revenus que vous en tirez doivent être déclarés aux impôts. L'administration fiscale a procédé à une piqûre de rappel sur ce sujet à la fin du mois d'août. Mais ce n'est pas tout. Vous devrez bientôt payer des cotisations sociales sur ces revenus si jamais ils dépassent le seuil de 23 000 euros par an. C'est ce qu'ont fini par décider les députés jeudi dernier en votant un amendement inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est la fin de l'état de grâce pour l'économie collaborative. À l'enthousiasme du début ont succédé des interrogations sur cette forme d'activité qui bouleverse le monde du travail. Droit social, fiscalité, plus question pour ce secteur de se développer en restant à l'écart de la réglementation. Un tribunal du travail britannique vient même de condamner la société Uber à donner le statut de salarié à ses chauffeurs. Selon un rapport parlementaire publié début février, l'économie collaborative pèserait en France 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un poids de plus en plus important, pour un secteur qui reste néanmoins fragile. Les vrais succès y sont rares, d'où les appels à la prudence de certains qui craignent qu'un excès de réglementation ne vienne étouffer ce nouveau modèle économique. Alors l'économie collaborative supporte-t-elle la régulation ? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Diana Filipova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif WeShare, un think tank spécialisé dans l'économie collaborative. Vous avez dirigé l'ouvrage « Société collaborative, la fin des hiérarchies », ouvrage publié en début de cette année aux éditions Rue de l'Échiquier. Pour discuter avec vous, quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il se trouve que c'est votre directeur de thèse, mais je compte sur lui pour ne pas se servir de cette position d'autorité dans le débat.
Aucun risque.
Antonio Casilli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aviez oublié que vous étiez le directeur de thèse de Diana Filipova. On ne le savait pas en vous invitant l'un et l'autre. Mais bon. Sociologue, chercheur au Centre Edgar Morin de l'EHESS, maître de conférences en Digital Humanities à Télécom Paritech. Vous avez publié l'an dernier chez INA Édition avec Dominique Cardon. Qu'est-ce que le Digital Labor ? Nous aurons l'occasion justement d'évoquer cette notion qu'on commence quand même à entendre de temps en temps dans les médias. Et puis troisième invité, alors lui il est venu il n'y a pas très longtemps chez nous. D'habitude il y a toujours une petite période de latence pour reprendre un invité. Mais bon, Olivier Babot, vos propos sur le sujet nous semblaient suffisamment intéressants pour qu'on déroge à cette règle. Olivier Babot, donc bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous étiez venu nous parler d'audiovisuel public à la dernière fois. Vous êtes porte-parole de la Fondation Concorde, qui est un think tank qui travaille sur les questions économiques. Et vous avez publié cette année aux éditions Manitoba Les Belles Lettres, La nouvelle ferme des animaux, fable politique et économique à l'usage des hommes. Alors avec vous trois, je voudrais qu'on examine cette actualité qui est assez riche s'agissant de la régulation de l'économie collaborative et notamment cette décision qui a été prise alors dans la douleur à l'Assemblée nationale la semaine dernière parce qu'il y avait un amendement qui a d'abord été rejeté par des députés. Bon, il faut dire que c'était tard le soir et qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et puis le gouvernement a un peu fait le forcing pour représenter l'amendement qui cette fois a été adopté et qui prévoit donc ceci. Les particuliers qui louent des biens via des plateformes collaboratives devront s'enregistrer au régime social des indépendants à partir d'un certain seuil de revenus, ce qui veut dire qu'ils devront payer des cotisations sociales. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne mesure les uns et les autres ? Diana Filipova.
Alors, dire que ce n'est pas une bonne mesure ne veut pas dire que je suis contre la régulation de l'économie collaborative. Je commence par ça pour bien marquer ma position. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où la France n'est pas le seul pays qui est en train d'essayer de enfin réguler ce secteur. On en parle depuis des années et des années. Je crois qu'il n'y a toujours pas eu de position intelligente, fine et innovante qui a été inventée sur le sujet.
Et celle-là n'en est pas une non plus, donc si je comprends bien.
C'est une façon d'appliquer des règles de l'économie classique du XXe siècle à un secteur qui demande de réinventer un tout petit peu la manière dont on pense, notamment à la question du statut du travailleur d'une part, et l'autre part, la taxation, enfin la fiscalité de la création de valeur sur les plateformes numériques et qui demande une certaine remise à plat des instruments qu'on connaît. Si on reprend la décision qui a été qui est prise en France de passer donc cette loi en force, je précise bien qu'elle a été un peu passée en force avec un petit vaudeville qui a pris place à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, à partir d'un certain seuil, on va obliger les travailleurs à s'affilier au RSI, qui est reconnu assez unanimement, notamment par les travailleurs indépendants, comme étant une usine à gaz. Donc non seulement en fait, on n'a pas réfléchi à ce que c'est d'être un travailleur indépendant sur une plateforme, en quoi est-ce que c'est différent d'être un travailleur d'un entrepreneur classique et d'autre part d'un salarié classique, mais en plus on a juste appliqué un système qui demande, enfin qui est unanimement, comment dire, dont on requiert qu'il soit réformé de la part déjà des travailleurs existants.
Donc pourquoi pas une régulation et un contrôle à partir d'un certain seuil de revenus, mais pas en se calquant sur un système qui est trop daté pour s'adapter à l'économie collaborative. Antonio Casilli, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Diana Filipova?
Alors on peut certainement avoir des doutes, des réserves vis-à-vis de ce type de mesures. Alors, évidemment, il faut aussi regarder ailleurs. Il faut regarder dans d'autres pays. Il faut penser, par exemple, à ce qui se passe autour de plusieurs plateformes et les efforts de régulation ailleurs, aux États-Unis, ailleurs en Europe. En effet, on se sert de réflexes qui semblent reproduire le vieux workfare, c'est-à-dire la vieille politique sociale basée d'abord sur l'existence d'un emploi classique et donc finalement d'un patron identifiable et d'un salarié identifiable. Mais je dirais qu'il y a une différence fondamentale. Les efforts l'effort français dans ce sens ne va pas, enfin ne diffère pas des autres. Les efforts de régulation des plateformes opèrent un report du risque et aussi un report de la responsabilité de cotisation sur l'usager de la plateforme. J'hésite de le définir comme un travailleur de la plateforme. Mais donc finalement, ce n'est plus à Airbnb, Uber et les autres d'avoir un rôle, par exemple, de gestion des cotisations, mais finalement, c'est la responsabilité de chacun. Et c'est un problème, à mon
sens. Hésitez, Antonio Casilli, à les qualifier de travailleurs. Il faut quand même préciser que dans cet amendement, il y a des seuils qui ont été décidés. En s'agissant de la location de ce logement, donc c'est ce qu'on peut faire par exemple sur Airbnb, on paierait des cotisations sociales au-deçà de 23 000 euros par an. Et s'agissant de la location de ce qu'on appelle les biens meubles, c'est-à-dire une voiture, une tondeuse, je crois des poussettes par exemple, pour donner simplement quelques exemples, ce serait 7 720 euros par an, s'agissant que dans le premier texte, c'était moitié moins. Mm-hmm. Et finalement, la ministre de la Santé, puisque c'était dans le projet de loi de sécurité sociale, a accepté que ce soit le double de seuil. Mais quand on est en mesure de gagner plus de 23 000 euros en louant son ou ses logements, c'est quand même la moindre des choses qu'on soit affilié à un statut de travailleur et qu'on paye des cotisations sociales, non ?
Mais alors, entendons-nous bien, moi je suis parfaitement d'accord que là on est face à des travailleurs. Mais je dis qu'on a un problème si on cherche à les qualifier en tant qu'employés, salariés, à l'ancienne, on va dire. Parce que le type de travail est complètement différent. D'abord, est un travail qui se cache, qui ne dit pas son nom, qui se présente comme partage, qui se présente comme esprit de communauté, qui se présente comme, justement, collaboration ou coopération. Mais on est d'accord qu'il s'agit d'un travail. Après, la question du seuil n'est pas une surprise pour moi, pour ce qui me concerne. C'est-à-dire, malgré tout le petit cinéma autour de cette mesure, c'était déjà dans la loi travail, dans l'article 60, qui décidait qu'à un certain moment, pour chaque plateforme, on allait décider des seuils. Et après, ces seuils, en même temps, ne permettent pas de mettre les plateformes face à leurs responsabilités. La responsabilité de reconnaître qu'en gros, elles sont basées sur la mise au travail de leurs usagers.
Olivier Babeau.
Alors, je suis assez surpris, mais je suis assez d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord, à vrai dire, avec ce qui a été dit. Cette mesure, c'est, à mon avis, une mauvaise réponse à une très bonne question. D'abord, pour préciser quelque chose, on paye déjà des cotisations sociales quand on loue son appartement. on touche des revenus fonciers, quel que soit le montant, on va, une fois qu'on les déclare, puisqu'on est obligé de les déclarer théoriquement, on paye des revenus fonciers quel que soit le montant.
Ici, la question, théoriquement est un terme intéressant dans ce que vous dites.
Oui, d'ailleurs. Théoriquement, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, mais on pourrait dire, vous pouvez aussi éviter de déclarer beaucoup de revenus. Hein. Le fisc n'est pas encore totalement parfait aujourd'hui, donc il y a quand même des gens qui font... Voilà, qui... Donc c'est possible, mais vous payez normalement, voilà, vous payez des cotisations sociales. La question, c'est est-ce que vous allez devoir adhérer au RSI? En effet, c'est quelque chose, c'est une expérience assez traumatisante pour l'avoir fait moi-même. Le problème du RSI, et là je pense qu'on touche vraiment au cœur de la question, le problème de l'économie collaborative qui supporterait ou non la réglementation, c'est pas tellement un problème de montant, on pourrait dire, de l'impôt. Je crois que le vrai problème, c'est un problème de complexité. Si vous rajoutez de la complexité aujourd'hui dans les actions collaboratives, vous allez les rendre beaucoup plus difficiles. Le problème du RSI, par exemple, et des systèmes français de façon générale, c'est que vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez vraiment payer. Vous ne connaissez pas le montant des cotisations sociales. C'est très compliqué de savoir comment vous allez les payer, à quel moment, etc. Et ça introduit une incertitude terrible qui pourrait éloigner beaucoup de gens de ces nouveaux marchés en développement. Et c'est ça qu'il faudrait
empêcher. Imaginons, Olivier Babot, plutôt que le régime social des indépendants, on crée un nouveau régime spécifique pour ces travailleurs de l'économie collaborative qui touchent des revenus conséquents en louant certains de leurs biens, des logements ou des biens meubles. Est-ce que là, ça vous semblerait une piste plus intéressante?
Oui, il y a des tas de gens qui aujourd'hui proposent des pistes autour de la portabilité des droits, parce qu'aujourd'hui, vous avez un droit qui est fait pour les grandes entreprises, pour l'emploi à vie. C'est deux choses qui, finalement, aujourd'hui, ne représentent pas, pour dire, là où les emplois se créent. Et donc, il faut créer, pourrait dire, une possibilité pour quelqu'un de changer d'emploi, d'avoir plusieurs employeurs, sans qu'effectivement il supporte. Alors il y a le problème de la dépendance économique. Quand vous avez une dépendance économique unique envers un employeur, il pourrait y avoir cette question de la requalification. Mais il faut aussi, je ne vais pas faire de théorie, mais vous savez, c'est Coase et Williamson qui ont parlé ils ont étudié les limites de la firme. Ils ont dit pourquoi, au bout d'un moment, une entreprise décide que ça y est, c'est plus moi, je vais sous-traiter. Et en fait, la réponse très très simple, c'est quand les coûts de transaction deviennent beaucoup plus importants et donc vous avez intérêt à internaliser avec des contrats. Or aujourd'hui, le numérique permet justement de faire des contrats beaucoup plus facilement et donc vous avez intérêt à externaliser. C'est donc une réponse assez légitime pour dire cette externalisation du travailleur. Et donc vous ne pouvez pas essayer de forcer l'économie en faisant rentrer au chausse-pied, on pourrait dire, dans les statuts d'hier, des réalités d'aujourd'hui qui sont aujourd'hui, pour dire, irréductibles.
Est-ce que je dois comprendre dans ce que vous dites les uns et les autres qu'à secteur particulier, il faut des règles particulières et que l'économie collaborative pourrait s'affranchir du régime qui est celui des autres travailleurs, Diana Filippova?
Alors, ce que vous dites, Olivier Babot, c'est très intéressant parce que vous dites créer un statut, pourquoi pas. Mais en fait, pour moi, si on commençait à réfléchir à la création d'un nouveau statut, c'est déjà une révolution copernicienne, en fait, pour le gouvernement en place. Ça veut dire se poser les questions, qu'est-ce qu'est le travail sur les plateformes numériques? Ça veut dire se poser la question, quelle est la différence entre, d'une part, Uber et les autres? J'aimerais bien qu'on aborde cette question-là, puisque la question, le cas Uber, pour moi, n'est pas du tout le même que le cas Airbnb.
On va y venir dans un instant sur le cas Uber, ouais, qui effectivement mérite un traitement spécifique.
Mais c'est surtout le reste qui mérite aussi un traitement spécifique, d'une certaine façon. Ouais. En tout cas, la vraie question, c'est quoi le travail demain? C'est la vraie question et elle mérite qu'on la pose. Et c'est une question politique. C'est une question sur laquelle, à mon avis, les acteurs existants, que ce soit les entreprises, les entrepreneurs, les penseurs du numérique, ont des choses à apporter et les ont déjà apportées à plusieurs reprises. Cette question ne se pose toujours pas parce qu'on réfléchit en mode binaire. Salarié, non salarié. Outsider, insider. Jeune diplômé, jeune sans diplôme. Alors que toutes ces frontières-là, justement, parce que on est dans une phase de transformation numérique qui est celle de l'automatisation, de la robotisation, du travail digital, de la fragmentation, du travail en miettes, toutes ces catégories méritent d'être repensées. Et je ne dis pas autre chose que ce qu'a déjà dit il y a plus de 15 ans Alain Supiot dans son rapport Au-delà de l'emploi.
Jusqu'à repenser en fonction justement de cette nouvelle économie qui est l'économie collaborative, c'est-à-dire que le droit finalement, le droit social, le droit du travail pourrait être articulé à partir de cette nouvelle façon de travailler, ce qui revient aussi à dire que c'est cette nouvelle économie qui a raison et que c'est l'ancien modèle qui a tort, Antonio Casilli. Il y a un petit peu de ça quand même dans cette façon de voir les choses, non?
Oui, à condition de s'entendre sur la notion même d'économie collaborative. collaborative. Parce que là, à mon sens, on est en train justement, et je pense que c'est aussi le sens de la remarque de Diana Filipova, de mettre ensemble des réalités fort différentes. Ce qui, les start-up ou les nouvelles entreprises qu'on a définies à un certain moment comme relevant de la sharing economy ou de l'économie collaborative, ne sont pas forcément assimilables aux grandes plateformes du type Airbnb, Uber, enfin, les entreprises qui ne sont pas des entreprises à proprement parler. C'est des entreprises, mais sont aussi des marchés du travail, typiquement. Alors, dans ce contexte-là, à mon avis, justement, il faut se poser la question de où est le travail. Et on se rend compte très, très rapidement que le travail n'est pas dans la plateforme, mais autour de la plateforme. C'est des communautés entières qui sont mises au travail, qui se retrouvent finalement à produire de la valeur. Par exemple, je ne sais pas s'il s'agit de Airbnb, il y a des externalités qui percutent sur la communauté même, sur les villes même, Uber, idem. Nous avons donc un problème qui n'est pas seulement un problème d'emploi, mais vraiment des collectivités sociales qui sont autour.
Mais est-ce que c'est un problème de philosophie dans laquelle ces entreprises-là abordent le collaboratif, ou bien est-ce que c'est un problème de taille? Parce que si c'est un problème de taille, dans l'économie, disons, classique, ces problèmes de taille, ils existent aussi. Mêmes règles à peu près, enfin, avec des nuances, selon qu'on est dans une entreprise qui a plus, par exemple, de 500 salariés, ou selon qu'on est dans une PME.
Ce n'est pas un problème de taille. C'est vraiment, disons, un problème de malentendu historique. À un certain moment, certaines plateformes ont décidé de s'annexer au discours du collaboratif, ou en gros de se laisser emporter par la bonne réputation du collaboratif, et ils ont cherché à se vendre, à se présenter en tant que tel. Airbnb, à mon avis, est un exemple vraiment remarquable. L'idée un peu angéliste de présenter constamment un esprit d'hospitalité est quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que elle introduit, disons, une couche de rhétorique devant une plateforme qui est une plateforme qui est orientée profit.
Les pratiques de certaines entreprises du secteur, Olivier Babeau, peuvent jouer au détriment de l'ensemble du secteur qui est peut-être resté un peu plus, comment dire, je ne vais pas parler de pureté parce que c'est toujours un peu compliqué comme terme, enfin en tout cas peut-être davantage plus proche de la philosophie de base de ce qu'est l'économie collaborative.
Ce qui est certain, c'est que les très grosses plateformes, celles qui sont les plus connues, les plus visibles, cachent en fait, on pourrait dire, l'immense longue traîne de toutes les autres petites associations, petites plateformes, petites pratiques collaboratives. C'est très intéressant de voir qu'il y a eu un débat très fort il y a quelques temps. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit, enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu calmé, mais autour de la notion d'économie du partage, du mot d'économie du partage, parce que les gens disaient, il n'y a pas de partage réellement parce que c'est souvent intéressé. On pourrait dire, il y avait tout un débat autour, est-ce que c'est du don, D-O-N, au sens maussien, ou est-ce que c'est pas du don parce qu'il y a de l'argent? J'avais écrit un article là-dessus à un moment, disant, est-ce qu'il y a du don dans Airbnb? Est-ce qu'il y a du don quand vous louez? Et en fait, ça, c'est emblématique de cette volonté qu'on a aujourd'hui à continuer à classer et avoir des catégories bien séparées. Vous avez effectivement le travail, le non-travail, l'actif, le non-actif. Vous travaillez, vous donnez à quelqu'un, ou vous donnez pas, mais vous faites une prestation tarifée. Or, justement, le problème de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que toutes ces catégories deviennent poreuses. Le fait est que c'est pour eux. Vous avez des gens qui font des choses dans un esprit de don, mais aussi en retirent de l'argent. Avec derrière une autre question économique qui est problématique en particulier pour Airbnb ou pour Hitch ou pour des services comme ça. À partir de quel moment vous êtes dans la répartition du coût, puisque vous utilisez un actif qui était sous-utilisé, comme votre voiture ou votre appartement, à partir de quel moment vous êtes dans la répartition du coût, à partir de quel moment vous êtes dans la création de valeur, on pourrait dire dans une forme de travail.
La question des seuils peut justement être une façon d'apporter une réponse à ce que vous dites.
Oui, la question des seuils est une vraie question, tout à fait.
En même temps, là, vous parlez de création de valeur et vous faites fi de l'aspect principal de ces plateformes, la captation de valeur. Il ne s'agit pas forcément de plateformes qui produisent, qui sont capables effectivement de produire, d'apporter quelque chose à la société et aux collectivités qu'elles investissent, mais plutôt qu'elles sont capables de s'approprier quelque chose qui existe déjà. Alors typiquement, si on considère que le covoiturage comme envie de partager un voyage en voiture avec quelqu'un existe en tant que mouvance, mais aussi en tant tant qu'infrastructure, bah, on peut considérer que Uber ou les autres s'approprient cette infrastructure. Ou alors que le fait de se partager ou d'héberger des gens chez soi est, si vous voulez, une tendance qui existe dans nos sociétés, et bah, on considère que Airbnb est capable de mettre un prix et de tarifer cela. Donc il ne s'agit pas seulement de dire, oui, bien sûr, il y a l'esprit du don et ceci coexiste avec le profit. Non, le profit finalement exploite l'esprit du don. Et j'insiste beaucoup sur le fait que ce qui est présenté, par exemple le fait d'identifier des seuils ou le fait de proposer des régulations comme une envie de décomplexifier une situation qui est très complexe, à mon avis, cache un élément d'exploitation et de précarité, de précarisation. Que se passe-t-il avec quelqu'un qui aujourd'hui est engagé en tant que chauffeur de Uber ou quelqu'un qui aujourd'hui vit sa vie ou alors arrive à avoir un petit revenu à la fin du mois ou à la fin de l'année en louant son appartement sur Airbnb. Est-ce que ceci est le début d'une carrière ? Est-ce que ceci est le début d'une trajectoire professionnelle ? Ou alors au contraire, il s'agit tout simplement d'une étape vers une descente dans la précarité ? Ça, c'est une question qui n'est pas posée et qui, à mon sens, les seuils n'aident pas à résoudre.
Diana Filipova, tout à l'heure, quand vous faisiez la distinction entre Uber, donc ces chauffeurs qui concurrencent notamment les taxis, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ? Et quand il y a des réglementations qui s'imposent justement à cette plateforme, par exemple en mai dernier, l'URSSAF qui considère que les chauffeurs Uber doivent devenir salariés, et puis donc vendredi, un tribunal du travail britannique qui condamne Uber à reconnaître ces chauffeurs comme des employés. Est-ce que ce sont des réglementations qui touchent des entreprises qui se sont greffées sur l'économie collaborative, mais qui ne sont pas de l'économie collaborative ?
Alors, moi, je pense que ce n'est pas de réglementation, en fait, qu'on a besoin aujourd'hui, mais d'une approche politique de ces phénomènes. C'est-à-dire que là, dans ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, il y a cette double aspect. Il y a ce qu'on désire, ce qu'on veut. L'économie du partage, quelque chose où la valeur créée est également distribuée. C'est un objectif politique. D'autre part, il y a la réalité. Et cette réalité, c'est qu'à la fois, on assiste, par exemple, du côté des VTC et d'Uber et de toutes ces plateformes-là, à un tremplin qui est donné à certains jeunes de banlieue, notamment, qui étaient au chômage. Il y a un très bon rapport qui a été produit sur le sujet, qui se greffe sur de la data qui a été fournie, notamment par Uber, de façon anonymisée, qui montre effectivement que c'est une espèce de réponse à des jeunes de banlieue qui étaient à peu près à 25% du chômage avant. Et puis, il y a aussi ce que disait Antonio, c'est-à-dire une difficulté à partager de la valeur, une précarisation possible de chauffeurs, parce que la régulation, elle n'est pas seulement au niveau des seuils. C'est pour ça que moi, je suis contre les seuils. Par exemple, une question qu'on ne pose même pas et qu'on n'a toujours pas posée, c'est la question du temps de travail des chauffeurs Uber. Qui le réglemente ? Ils ne sont pas déconnectés par la plateforme. Ils peuvent très bien rouler et se connecter pendant à peu près 40 heures sur deux journées et personne ne va les contrôler. Donc, est-ce qu'on ne peut pas renverser la position et dire que Uber devrait être redevable de fournir le temps de travail de ses chauffeurs pour réglementer le temps de travail ?
Enfin, justement, en les reconnaissant comme salariés, vous êtes obligé d'appliquer le droit du travail, c'est-à-dire leur donner des congés payés et avoir une durée maximum hebdomadaire de travail.
Le problème, c'est que si vous appliquez le statut de salarié travailleur Uber, il n'y aura plus de chauffeur Uber. C'est ça le problème, c'est que vous allez... Alors, moi, je ne parle même pas d'Uber, parce qu'en réalité, Uber et les taxis G7, pour moi, aujourd'hui, sont plutôt dans une position similaire. Ce sont d'une part un monopole sur les VTC et d'une part un monopole sur les taxis. Donc, ils jouent plutôt dans la même cour. Et après, il y a toute la longue traîne qui essaye de prévoir une répartition de valeur. Je pense notamment à Hitch, je pense à une initiative aux États-Unis qui s'appelle Juno, qui tient à associer les chauffeurs Uber, à leur distribuer une partie de la valeur qui est créée, à les intégrer dans une coopérative. Et en fait, on va, en réglementant quelque chose qui existe aujourd'hui et qui, de toute façon, est dans une situation de monopole, on va tuer toutes les initiatives qui peuvent arriver dans le futur et qui sont des concurrents autant de Uber que des taxis G7.
C'est ça un des enjeux majeurs justement de la réglementation aujourd'hui de l'économie collaborative et ou de ce qui gravite autour, c'est un risque de fragiliser un secteur qui devient de plus en plus important mais qui reste justement quand même encore assez embryonnaire par rapport on va dire, au reste de l'économie classique, Olivier Babot.
Oui, je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui que ça répond à des vrais besoins, des besoins économiques, mais des besoins aussi des nouvelles façons de travailler pour les gens. C'est l'Institut de l'entreprise qui disait, je crois, c'est justement cette image, le salarié, il est grignoté par les deux bouts. Alors, il est grignoté par en bas, effectivement, parce qu'il y a un aspect précarisation, effectivement, je trouve ça assez, c'est tout à fait vrai, pour les gens, on pourrait dire les moins qualifiés, donc des gens qui sont en état de dépendance économique, mais il faut aussi se rendre compte, il est aussi grignoté par le haut, par des gens qui choisissent de sortir de cette vision de salariat, des jeunes souvent très diplômés, qui choisissent d'être indépendants, de travailler en réseau, d'avoir plusieurs employeurs, et du coup de ne pas dépendre d'un seul. Et pour ces gens-là, on pourrait dire la réponse uniforme est mauvaise. De toute façon, je pense que le vrai problème, c'est qu'on veut essayer d'uniformiser alors que justement on a besoin de réinventer une forme de flexibilisation ou de choses. Alors, effectivement, est-ce que c'est un statut? Est-ce que c'est... Alors, et derrière, deuxième chose dont on a finalement déjà parlé, mais c'est le problème qui vient brouiller ça, c'est qu'effectivement, vous avez des grandes plateformes et qu'un des effets du numérique, on le voit avec Google notamment, ou avec les GAFA de façon générale, hein, Amazon, Facebook, Apple, les grosses plateformes du numérique, il y a un effet, on pourrait dire, d'amplification de la domination qui devient assez souvent un monopole. Puisque effectivement vous avez un effet tout simple qui fait que quand vous êtes là, vous avez plus de trafic, les gens vont aller d'abord mettre leur annonce ou mettre leur offre ou leur travailler pour le plus grand acteur, et donc le plus grand a tendance à, un peu comme un trou noir, à aspirer les autres, et du coup il a tendance à devenir monopoleur et à terme à imposer ses conditions. Si demain il n'y a plus que Uber par exemple, et ben il va pouvoir imposer ses conditions, et ça c'est un des vrais problèmes de l'économie aujourd'hui.
C'est le vainqueur qui ramasse tout. Ottino Casilli.
Justement, pour empêcher cette situation de monopole ou d'oligopole, il y a des alternatives possibles. Et ces alternatives, par exemple, vont dans le sens de mettre en place des plateformes alternatives, des plateformes qu'on appelle des plateformes coopératives. Donc c'est un grand mouvement qui est déjà s'est mis en place depuis quelques années, qui s'appelle justement le mouvement du Platform Cooperativism. Le deuxième colloque international va avoir lieu dans quelques semaines à New York. Et l'idée de ce mouvement est justement de proposer, par exemple, un Uber du peuple ou un Uber coopératif. Mais là, par exemple, pour parler d'Uber, mais on pourrait dire le Airbnb version coopérative, donc un groupe, par exemple, qui soit de propriété des travailleurs mêmes, ou dans lesquels les travailleurs sont reconnus pour leur effort et leur contribution à leur juste valeur. Alors ça, c'est en effet quelque chose d'intéressant. D'abord parce que on vivait véritablement dans un marché qui marche, on pourrait avoir en effet des plateformes coopératives de ce type-là qui mettraient en danger le monopole des grandes plateformes actuelles. Et de l'autre côté, j'insiste aussi sur un autre fait, on pourrait aussi souhaiter, et ça c'est le sens de dire, il ne faut pas seulement penser au seuil ou penser à de la régulation un peu naïve, on pourrait aussi imaginer de vivre dans un pays qui met en place des politiques qui permettent à ce plateforme, à ce coopérativisme des plateformes de se développer.
C'est justement ce que je voulais vous poser comme question, Ottino Casilli. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, du coup, la régulation ou la réglementation, ça consisterait à favoriser ces formes-là d'avant, par rapport à celles qui sont justement de type plus, non pas plus classique, mais enfin en tout cas voilà, plus capitalistique, disons.
Mais disons que pour moi, la régulation efficace est une régulation qui répartit d'une manière équitable le pouvoir de marché, on va dire comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous dans les mêmes conditions pour pouvoir justement fournir un service de qualité. Et donc en l'occurrence, je ne veux pas dire par cela qu'il faut par exemple surtaxer les nouvelles plateformes pour en gros les mettre sur le même plan que les vieilles centrales taxi ou le secteur de l'hébergement et de la restauration, etc. Mais de permettre à tout le monde de proposer justement une innovation qui va dans le sens aussi de reconnaître par exemple le travail produit et fourni par les usagers des plateformes à sa juste valeur. Et donc par cela, je veux dire qu'il faut aussi arrêter de mettre les usagers des plateformes dans des situations de précarité et, ou tout simplement de sous-rémunération.
Sans aller jusqu'à la question de la surtaxation, il y a quand même cet outil qui est important justement pour favoriser peut-être certaines pratiques par rapport à d'autres, c'est la fiscalité. Diana Filipova, est-ce que aujourd'hui vous considérez que la fiscalité telle qu'elle est pratiquée par exemple en France à l'égard de l'économie et en particulier de l'économie collaborative est une fiscalité qui est satisfaisante, ou bien là aussi est-ce qu'il faudrait selon vous l'adapter parce que c'est un secteur qui est particulier?
Alors, je ne vais pas m'aventurer dans la fiscalité générale, hein, si j'ai quelques idées là-dessus, je vais juste me limiter aux plateformes. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que la fiscalité, c'est un outil politique qui permet de favoriser certaines pratiques au détriment d'autres. Aujourd'hui, je crois que dans le secteur, notamment dans le secteur de l'économie collaborative, la question n'est pas sur la fiscalité plutôt, mais sur la capacité à prélever l'impôt, ce qui est une façon très différente de réfléchir.
Notamment pour des plateformes étrangères. C'est-à-dire on se retrouve avec des problématiques qui sont identiques. Je pense à Apple, par exemple, c'est-à-dire voilà des entreprises qui font des bénéfices dans un pays, mais qui n'en déclarent qu'une petite partie parce qu'elles sont basées à l'étranger.
La question est plus généralisée à la question de la production de valeur dans l'économie numérique, qui est complètement différente parce qu'elle est délocalisée. Ce n'est pas du tout la même chose que, on va dire, dans une entreprise qui produit des voitures dans une région où ces voitures, on sait où elles ont été produites, on sait d'où viennent les pièces. Donc, ce qu'on appelle plus généralement l'économie informationnelle et l'économie de la connaissance fonctionne de façon complètement différent. Et là où l'actif, quand on contrôle un marché, c'est qu'on contrôle les canaux d'information et la capacité à capter la valeur qui est à la fois humaine et qui est souvent décentralisée et située partout. Donc en fait, là je repense notamment au rapport qui avait été produit par Colin et Colin à l'époque sur la fiscalité numérique. Elle demande à ce qu'on remette aussi à plat nos schémas de fonctionnement et notre représentation de la chaîne de valeur. Alors, sur la question de Uber, je pense quand même qu'il faudrait aborder cette question-là.
Alors attendez, je voudrais juste, sur la question de la fiscalité, entendre aussi Olivier Babot sur ce point. Vous évoquiez le rapport Colin et Colin. Il y a eu un rapport plus récent d'un parlementaire, le député socialiste Pascal Terrasse, au mois de février, dans lequel alors, il y avait beaucoup, peut-être pas suffisamment pour vous, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il y avait des pistes justement de régulation de l'économie collaborative, et il évoquait justement la question des impôts payés ou pas suffisamment payés par ces grandes plateformes, en disant qu'il fallait que l'État agisse pour que ces grandes entreprises étrangères paient leurs impôts en France, Olivier Babot.
Oui, il y a au moins deux questions, hein. C'est comment on impose l'argent que gagne Airbnb ou Uber, et comment on impose l'argent que gagnent les gens qui utilisent Airbnb ou Uber. C'est deux choses différentes, hein. Et là, dont on se parlait au début de l'émission, c'était ce que les gens gagnent en faisant cette activité. Et effectivement, il y a un problème d'évasion fiscale et de capacité à faire payer, que même les États-Unis ont d'ailleurs, hein, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire payer leurs propres entreprises toujours. Ça, c'est effectivement un vrai problème. Je pense que la régulation fiscale telle qu'on l'a fait en France est mauvaise si elle n'est que un avatar de plus de cette politique du raclement de tiroir fiscal qui est un petit peu notre politique aujourd'hui, qui est comme on a beaucoup besoin d'argent, on essaye d'en trouver partout où on arrive à en prélever. Voilà. À ce moment-là, c'est mauvais.
Si aussi, donc c'est si je sous le mon appartement, ça vous choque par exemple que je déclare les revenus que je tire de cette sous-location ?
Non, pas du tout. Je veux dire que c'est un peu un problème d'intention. Je veux dire, si d'ailleurs la façon dont ça a été voté avec le fait d'hésiter, puis finalement on a fait en revenir. Alors je sais très bien comment ça se passe. Hein, ces séances de nuit, il y a très peu de députés. Les gens du gouvernement sont là à compter les députés pour être sûr que leur truc passe. Enfin, normalement, ils contrôlent la chose. Et le fait qu'ils aient eu du mal à le faire voter prouve qu'ils ne savent pas très bien où ils vont. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ces problèmes de cap. Ce n'est pas le fait de fiscaliser ou pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cap et il n'y a pas de vision. Pourquoi ? Parce que la réalité, je suis désolé de le dire, c'est que vous avez beaucoup de députés qui se font aujourd'hui imprimer leur email dans des parafeurs. Parce que vous avez un déficit de connaissances numériques de la part de nos hommes politiques. Je veux dire, je l'ai vu en vrai de mes yeux vus, hein, qui est dramatique. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de l'économie collaborative, la plupart de nos élus, malheureusement ? Absolument rien. Et je pense que c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est pas le fait de fiscaliser, évidemment.
Antonio Caselli.
Sur cette chose-là, je suis pas vraiment d'accord. Alors, il y a beaucoup de rhétorique de la déconnexion des élites. Je pense que les sénateurs ou les députés ne sont pas plus déconnectés que les professeurs universitaires ou les journalistes de la radio. Je pense
vous
que.
Pensez à qui,
hein? Non. Je veux dire par cela qu'il faut considérer que les mauvaises lois ne sont pas le résultat de l'ignorance, mais de logique interne à la profession d'hommes politiques et de femmes politiques qui aujourd'hui, par exemple, s'adaptent sur des paradigmes fiscaux nationaux. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne la fiscalité du numérique, la France a, et donc le rapport Collin-Collin l'incarne, une sorte de doctrine. Donc, elle représente une manière d'envisager la fiscalité du numérique, c'est-à-dire imposons les plateformes à partir du travail invisible fourni par les usagers même. Et donc à partir de la quantité, par exemple, de données et de bénéfices réalisés à partir de là. Par
ça, contre, c'est la question du digital labor, justement.
Voilà, ça c'est aussi la question du digital labor. Et la France, de ce point de vue-là, depuis 2012-2013, est positionnée de ce point de vue-là. Au niveau international, il y a d'autres paradigmes de fiscalité du numérique. Par exemple, je pense à la Corée du Sud, qui depuis 2008 a adopté peut-être un paradigme qui vous plairait davantage, c'est-à-dire il faut imposer plutôt les consommateurs, c'est-à-dire les usagers. Et ces personnes-là, au moment où ils vendent leur petit objet virtuel dans un jeu vidéo, ou par exemple louent leur petite maison, et ainsi de suite, à chaque fois qu'ils se servent d'une plateforme, qu'ils sont imposés. Alors là, c'est une différence. Vous voyez, d'une part, il y a une fiscalité qui se concentre sur le petit consommateur. De l'autre, il y a une fiscalité qui se concentre sur les entreprises.
Donc vous n'avez pas du tout en fait la même approche s'agissant de la fiscalité, s'agissant du droit du travail et du statut du travailleur. Finalement, la fiscalité, est-ce que ça n'est pas justement d'abord il y a une nécessité de neutralité, de traiter d'ailleurs tout le monde de la même manière. Et est-ce que ça n'est pas sur cet outil-là qu'il devrait y avoir la plus grande unanimité et appliquer finalement des règles fiscales, quel que soit le type de secteur, Olivier Babeau?
En fait, c'est jamais si simple que ça, parce que vous savez que ce sur quoi porte une taxe officiellement n'est pas toujours celui qui est censé supporter la taxe n'est pas toujours celui qui la paye réellement. Ça dépend du pouvoir de marché, en fait. Cela étant, l'idée que le consommateur doit payer, c'est l'idée de la TVA. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on paye. Et c'est le système qui rapporte le plus d'argent, en réalité, aujourd'hui à l'État. Le problème, aujourd'hui, c'est d'arriver à identifier où se crée la valeur et qui arrive à en garder les fruits. Parce que vous pouvez créer la valeur quelque part et que la plateforme, par son pouvoir de marché, arrive à en capter les fruits et à les amener ailleurs. Et donc tout le problème, c'est d'arriver à saisir cette valeur-là qui, effectivement, est pour dire, beaucoup moins identifiable qu'elle l'était autrefois dans l'économie traditionnelle.
Alors Diana Filipova, vous vouliez revenir sur la question de l'Uber.
Alors déjà, pour répondre à ce qui a été dit, effectivement, entre une plateforme qui détient, on va dire, 100% de la capitalisation et une coopérative où, on va dire, 50% de la création de valeur et du capital est distribué auprès des contributeurs de plateforme, le système fiscal pourrait peut-être ne pas être le même. Pour l'instant, nous sommes en présence des plateformes qui connaissent très bien toutes les données qu'ils prélèvent sur les utilisateurs, qui en font usage à titre personnel pour construire les statistiques, adapter leurs produits, etc. Et donc, du point de vue purement pragmatique, moi, si j'étais l'État, je dirais, OK, là, j'ai face à moi un interlocuteur qui est capable de me communiquer toutes les données et qui, il suffirait que je fasse une loi qui s'applique à eux. Je pourrais prélever, donc taxer au niveau de la plateforme sans que cette fiscalité ne devienne entièrement définitive. Parce que si demain, imagine dans le meilleur des mondes, nous n'avons que des coopératives avec 90% de la valeur qui est distribuée auprès des usagers / utilisateurs, on pourrait prévoir un modèle fiscal qui soit un peu différent. Donc déjà, cette question-là, je ne pense pas qu'il y ait de dogmatisme possible. Ensuite, sur la question Uber, donc, c'était quoi exactement la question
Tout à l'heure, vous disiez, je voudrais revenir sur Uber. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous revenez-y si vous le souhaitez maintenant.
je reviens sur Uber. Vraiment sur Uber, pour moi, la question qui se pose, c'est quoi un contributeur aujourd'hui chez Uber? Est-ce que c'est un travailleur indépendant ou est-ce que c'est un salarié? Ou alors, ça montre à quel point la question de la subordination, la question d'autonomie sont en train d'être entremêlées dans une nouvelle façon de produire de la valeur auprès de ces plateformes-là, puisque demain, on pourrait imaginer que ce paradigme de plateforme soit généralisé, notamment aux grandes entreprises existantes, pour qu'elles deviennent plus flexibles et plus agiles. Et donc, dans ce cas-là, la question est beaucoup plus large. C'est quoi un travailleur de demain et comment on arrive à conjuguer un équilibre entre autonomie et subordination? Et aujourd'hui, la question du chauffeur Uber, elle se pose de plein pied parce qu'il est censé être indépendant, mais la façon dont il est connecté au système et qu'il est surveillé par la plateforme correspond exactement à ce qu'est un salarié, en tout cas du point de vue de la surveillance par la plateforme.
Donc, c'est la question de la protection finalement de ces travailleurs, que ce soit ceux d'Uber ou que ce soit les digital labor dont vous parlez, Antonio Casilli.
Au fait, il n'y a pas d'alternative, parce que Uber aussi est du digital labor. Si vous regardez l'activité d'un chauffeur de Uber, et même d'un passager de Uber, 40% de leur temps peut-être se passe en train de conduire une voiture, mais une partie vraiment importante, la majorité de leur temps en fait, se passe sur l'application.
situation. Et le fait est que Uber n'est pas une entreprise de transport urbain, mais au fait, c'est tout simplement une plateforme qui fait de l'appariement de algorithmique. Et donc, en gros, la majorité du temps des travailleurs de Uber se passe sur une application mobile en temps de gérer leurs données, en temps de gérer leur réputation, en temps de choisir la bonne photo pour bien se présenter et pour avoir un bon score. Et en plus, les chauffeurs, bien sûr, reçoivent un score qui est important pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, effectivement, ça fait partie de leur travail, le fait de gérer leur réputation sur l'application mobile. Mais nous, les passagers, nous aussi, nous sommes évalués par les chauffeurs. Et donc, nous-mêmes, nous devons réaliser un certain travail numérique qui passe, par exemple, par le fait de donner les bonnes étoiles ou le fait d'être réactif quand nous recevons un message, et ainsi de suite. Donc, effectivement, la question est que le travail explose. Explose parce que les frontières même de l'activité devient complètement floues. C'est un travail qui est physique, mais c'est un travail qui passe aussi par des plateformes mobiles et par des plateformes numériques, justement.
Et j'ai vu que c'était une des raisons pour lesquelles vous pouviez être favorable à cette question dont on parle beaucoup en ce moment, qui est celle du revenu universel, qui permettrait justement de rétribuer aussi ce travail que nous faisons sur les plateformes. On n'a pas le temps d'en parler. Pour quelle raison ? Parce que l'émission est terminée. Merci beaucoup à tous les trois. Diana Filipova, Antonio Casilli et Olivier Babeau, vos références bibliographiques. C'est comme chaque soir sur notre site franceculture.fr à la page du grain à moudre. Demain, nous poserons la question suivante. Justin Trudeau, l'avons-nous vu trop beau ? Ce sera juste un an après son intronisation au poste de Premier ministre du Canada. Tout de suite, c'est le sommaire. Bref, s'il vous plaît, de Mathilde et de Martin pour Ping Pong. Bonsoir à tous les deux.